genre d'abstraction repose l'idéologie marxiste et la dialectique hegelienne ? Est-ce sur une abstraction mathématique qui se sépare du jugement d'existence, de tout le domaine sensible et du mouvement ? C'est au point de vue de l'idéologie. L'idéologie repose, ça dépend du reste. L'idéologie marxiste, c'est une abstraction. Sûrement, il y a un type mathématique, mais je n'oserais pas dire que ce n'est pas la mathématique. C'est un mélange imaginatif. Ce serait facile de le faire à l'analyse. Je ne la fais pas maintenant, parce que c'est un petit peu extrinsèque au sujet d'Aristote. Mais il faut s'habituer au point de vue critique. C'est toujours par la définition qu'on voit le degré d'abstraction. Donc, comment Marx définit-il la praxis ? Voilà. La dialectique hegelienne, également, on peut voir comment ce qui est impliqué dans la définition. La dialectique qui leur est commune provient-elle de l'abstraction du mouvement d'ordre quantitatif ou de la formalisation du divisible? Il faut faire un petit peu attention, je crois qu'il faut plutôt partir de l'idée. C'est à partir de l'idée qu'on peut essayer de saisir le type d'abstraction des idéologies. Le renversement de l'idéologie marxiste par rapport à l'hégélianisme provient-il de l'abstraction du sensible et de la formalisation des contraires d'ordre qualitatif dans le domaine différent? Je crois pas. Je crois que le renversement est une simple application. Et la dialectique comme telle reste la même. Donc ça, ce serait intéressant de regarder. Je ne veux pas le faire ici parce que c'est pas directement le cours par rapport à Aristote, c'est extrinsèque. Mais ce que dit Aristote doit nous aider à faire l'analyse de ce que c'est qu'une définition. Et c'est toujours à partir des définitions qu'on voit le degré d'abstraction. Relisez ce que dit saint Thomas dans De Trinitate et de Boès. Ces articles sur l'abstraction et la séparation. Ce sont des articles extrêmement bien faits et intéressants. Relisez ce que le père Geiger dit sur abstraction et séparation. Alors, nous sommes ici de plus. Je crois qu'on a été là. C'est-à-dire exactement B2-194-A-27. De plus, ce en vue de quoi est la fin. Donc, ce en vue de quoi est la fin. Le ou et néka. Sont l'affaire de la même science et que toutes les réalités qui sont elles-mêmes en vue de ces réalités. Or, la nature est fin et en vue de quoi ? Phusis telos kai ou eneka. Des réalités en effet dont existe le mouvement qui les anime. Étant continu, quelque fin du mouvement, celle-ci est pour lui terme ultime, et ce en vue de quoi il se produit. D'où vient aussi que c'est de manière risible que le poète se laisse aller à dire à propos de ce qui est en train de mourir. il atteint le terme pour lequel il est né. Oui, ça c'est très amusant, Aristote qui donne un coup de patte sur tout l'existentialisme qui définit l'homme par la mort. Et Aristote n'hésite pas de dire d'où vient aussi que c'est de la même, c'est de manière risible. Et si vous définissez l'homme par la mort, c'est risible. Que le poète se laisse aller à dire, il atteint le terme pour lequel il était né. Car pas du tout terme qui veut être la fin ultime, et le meilleur seulement. Alors qu'est-ce que veut dire Aristote ici, hein, quand il dit ça? On est dans le point de vue de l'abstraction. On avait dit avant, précédemment, pour bien comprendre, mais si l'art imite la nature, c'est l'affaire de la même science que de connaître la forme eidétique et la matière. Et de connaître celle-ci jusqu'au point où elle est apte à recevoir la forme. C'est l'affaire du médecin, par exemple, de connaître en son art la santé et la bile et le flegme en lesquels est la santé. De manière semblable, c'est aussi l'affaire de l'architecte de connaître en son art la forme eidétique de la maison et la matière dont elle est faite. De savoir donc que ce sont des tuiles et des bois dont on a besoin. Il faut en connaître tout autant touchant les autres arts. Et ce serait donc l'affaire de la science physique que d'acquérir la connaissance de l'une et de l'autre nature. De plus, en vue de quoi? Qu'est-ce qu'Aristote veut nous faire comprendre ici? Que c'est la même science physique de connaître la nature, la forme et la matière, et de connaître la fin. Ceci pour mieux nous faire comprendre ce que c'est que l'abstraction mathématique. L'abstraction mathématique sépare la forme de la matière. Je crois que c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Hein. Alors que la connaissance philosophique ne peut pas séparer la forme de la matière. On connaît la nature forme et la nature matière dans la même connaissance, dans la même science. Il y a distinction, mais pas séparation. De même pour en vue de quoi? La fin. Il y a distinction mais pas séparation. Il faut bien saisir ça. Parce que ça, c'est toute la question de l'abstraction et de la séparation. Le jugement d'existence présent dans toute la philosophie de la nature fait que je ne peux pas séparer forme et matière, puisque la matière n'existe pas sans la forme, et la forme n'existe pas sans la matière. De sorte que même si je distingue nature, matière, nature, forme, je ne peux pas les séparer. Ce qui caractérise la connaissance mathématique, c'est que je sépare la forme de du sensible. Et j'essaie de saisir une relation indépendamment de la manière dont elle existe. Elle n'existe que dans mon intelligence. C'est ça qu'Aristote appelle l'abstraction mathématique. Donc, c'est une formalisation qui va impliquer un jugement au même niveau. C'est ça qui est très intéressant à voir. C'est l'appréhension et le jugement ne vont plus se séparer. Ou, ne, se distingue, si vous voulez, parce qu'il y a toujours appréhension et jugement, mais l'appréhension et le jugement vont s'unir dans une continuité sans qu'il y ait un jugement d'existence. Alors qu'ici, le jugement d'existence m'empêche de séparer matière et forme. Non seulement nature, mais nature en vue de quoi ? La fin. Et les trois regardent la même science. Et je crois que ça, c'est justement le propre. C'est le propre d'un jugement philosophique impliquant le jugement d'existence. La fin n'existe jamais sans la forme, et la forme n'existe jamais sans la matière. Et donc, quand je saisis nature, forme, nature, matière, je distingue, mais je ne sépare pas. Mon jugement d'existence est présent tout le temps. Je ne sépare pas. Tandis qu'en mathématiques, je saisis une forme divisible, et cette forme divisible, je la saisis pour elle-même. Donc, le jugement va être dans le prolongement même de l'appréhension et de l'abstraction. C'est en ce sens-là que dans le jugement mathématique, il y a séparation à l'égard de la réalité. J'ai une abstraction formelle. Et qui dira abstraction formelle dira une abstraction qui donnera à cette forme sa manière propre d'être.
Je ne sais pas ce qu'au niveau philosophique on appellera la cérébralisation pour la...
Psychologiquement, c'est ça. C'est une cérébralisation.
Donc au fond, il ne faut jamais être complètement à l'aise avec l'abstraction philosophique. Il faut, on n'est jamais, l'intelligence n'est jamais complètement à l'aise avec l'abstraction philosophique à cause du jugement d'existence.
À l'aise, oui. On est parfaitement. C'est plutôt avec l'abstraction mathématique qu'on n'est jamais pour les uns. Je dirais plutôt l'inverse. Je dirais que l'abstraction mathématique ne me met jamais parfaitement à l'aise par rapport à la vie. Tandis que l'abstraction philosophique demande tout le temps de revenir au vécu, du moins au jugement d'existence. Est-ce que l'abstraction mathématique faisant abstraction du jugement d'existence, je demeure dans le vécu. Donc, l'abstraction formelle va se prolonger dans un jugement formel. Mais, enfin, au point de vue critique, ce que ne fait pas Aristote, hein, Aristote ne pousse pas jusque-là, mais nous pouvons le faire, nous. Nous pouvons faire avec appréhension et jugement. C'est net quand on étudie, c'est que le jugement implique séparation et l'appréhension implique abstraction. C'est comme ça que je mettrais, moi. Toute abstraction est au niveau de l'appréhension et le jugement est au niveau de la séparation, de la non-séparation. Qu'est-ce qui se passe dans l'appréhension mathématique ? C'est que l'abstraction va être poussé jusqu'au bout et va impliquer un jugement à l'intérieur de l'abstraction. Et je ne rejoins jamais le jugement d'existence qui, lui, implique séparation ou non-séparation. Dans le jugement de la philosophie de la nature, il y a non-séparation entre matière et forme. Il y a non-séparation entre matière et forme et fin. Tandis que dans le jugement mathématique, l'appréhension est telle qu'elle va impliquer un jugement. Et donc une séparation. Je me sépare en connaissance mathématique du sensible, du mouvement, de la fin. Séparation. De ces trois. Et je reste dans un jugement mathématique qui prolonge l'abstraction. Alors, vous voyez, c'est ça, ce type. Je crois que la connaissance mathématique est extrêmement importante pour nous. Parce que la connaissance mathématique, d'une certaine manière, est première par rapport à la connaissance philosophique. On est tous un peu mathématiciens avant d'être philosophes, plus ou moins conscients. Et quand on ne fait pas suffisamment la distinction entre la connaissance mathématique et la connaissance philosophique, je prolonge la mathématique et je mets séparation du jugement d'existence. Les mathématiques se séparent du jugement d'existence. On construit à partir de l'appréhension. Tandis qu'en philosophie, je ne construis jamais rien. C'est pour ça que c'est la seule connaissance vraiment spéculative, contemplative. Le contemplatif ne construit pas, il découvre. Le mathématicien construit tout le temps. Pourquoi construit-il ? C'est parce que son jugement est dans le prolongement de son appréhension. Alors je crois que ça fait comprendre, vous voyez ? Il faudra bien voir ça, mais je suis persuadé que ça fait comprendre le point de vue du cercle. La mise entre parenthèses du jugement du jugement d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire, la mise entre parenthèses de l'existence ? Ça veut dire que mon jugement est dans le prolongement de l'appréhension. Et alors c'est dans ce sens-là que je dis, on est toujours mal à l'aise. Parce que la réalité pratique, c'est mon jugement d'existence. J'achète des carottes et je ne mets pas entre parenthèses l'existence des carottes. Le philosophe est à l'aise dans le pratique. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas de faire la cuisine quand il doit la faire. Il fait encore de la philosophie en faisant la cuisine. Tandis que le matheux, non, je perds mon temps. Le philosophe ne perd jamais son temps. Il est à l'aise dans n'importe quelle chose. Très bien, on me demande de faire ça m'est égal. J'apprends plus par la réalité que par les bouquins. Tandis que le vieux restant mathématique en moi, c'est que j'apprends moins avec la réalité qu'avec les bouquins. Je crois que c'est très significatif, ça. Vous voyez ? Le réalisme philosophique fait que je suis à l'aise en plantant des choux. Et en plantant des choux, j'apprends plus que dans les bouquins. Parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Le philosophe est chez lui partout. Il est chez lui partout parce qu'il est chez lui avec le réel. Il est chez lui avec l'homme, il est chez lui avec les choux, il est chez lui avec les petits cochons, il est chez lui partout. Parce que son jugement d'existence ne l'abandonne jamais. Tandis qu'au contraire, le matheux, il n'est jamais chez lui que dans sa pensée. Son chez-soi, c'est sa pensée. Oui, c'est ce que me disait la fille de Merleau-Ponty. C'est très gênant d'avoir un père philosophe parce qu'il n'est jamais avec nous. Il pense toujours. Et elle me disait ça quand elle avait 15 ans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais quand elle avait 15 ans, elle m'a dit ça. Je l'ai écouté, ça m'a intéressé. C'est toujours intéressant d'entendre ça. Oui, j'étais chez moi en l'écoutant, au plan philosophique. Le réalisme philosophique fait que je suis partout chez moi. Ça va très loin, ça, du reste. Et le non-réalisme philosophique fait que je suis toujours un tout petit peu, parce qu'au fond, je crois qu'il y a deux types de connaissances, les mathématiques et la philosophie. Il n'y en a pas 36. Tout le reste, c'est du blabla. Il y a la philosophie et les mathématiques. Et les mathématiques représentent quelque chose de grand et de noble. Mais quand je fais des mathématiques et que je crois que c'est de la philosophie, c'est terrible. C'est catastrophique. Je tombe dans l'ontologie, je tombe dans tous les idéalismes possibles. Et c'est pour ça que j'aime mieux les mathématiques que l'idéalisme. Un grand matheux, c'est toujours intéressant. Tandis qu'un idéal, quelqu'un qui est dans l'idéalisme, c'est très gênant. Et je crois que c'est pour ça qu'Aristote s'intéresse tellement aux mathématiques. C'est parce qu'il sait qu'il y a une forme. Alors vous voyez, si c'est là, si vraiment c'est ceci, c'est par rapport à l'appréhension au jugement que je juge tout de suite la différence. C'est que l'abstraction au niveau de l'appréhension se prolonge. Et j'ai un processus. Et alors j'ai un jugement ici. Un jugement qui est l'addition des appréhensions. Occam. La logique. Tandis qu'au contraire, la vraie connaissance philosophique, c'est de comprendre que l'appréhension est dépassée par le jugement. Et relativisée par le jugement. Et le jugement d'existence, c'est la chose principale, qu'elle je ne quitte jamais. Je le dépasse, mais je ne le quitte pas. Je le dépasse dans l'induction, mais je ne le quitte pas. Le jugement d'existence est présent dans l'induction. Je crois que tout est là, profondément. Alors continuons. Donc, et puis elle réfléchit, il atteint le terme pour lequel il était né. Donc quand quelqu'un meurt, oraison funèbre. Et Aristote dit c'est risible. Il atteint le terme pour lequel il était né. Mais le positivisme absolu, hein, on dirait ça aujourd'hui, oraison funèbre. Il a bien terminé sa vie, il est mort dans son lit. Donc, il a atteint le terme pour lequel il était né. Il est né dans le berceau et il termine sa vie dans le lit. Donc, il était fait pour le lit. Car ce n'est pas tout terme qui veut être la fin ultime, mais le meilleur seulement. Alors, vous voyez le prime, chose d'Aristote. Hein. Confusion entre le terme et le point de vue de la fin. C'est la confusion entre les termes. Parce que la fin, c'est un terme qui est beltiston. Tandis que ce n'est pas n'importe quel terme qui est fin. L'ekaston n'est pas toujours fin. La fin, c'est l'ekaston beltiston. C'est pas joli. En confusion, et ça c'est le positivisme, hein, confusion entre fin et terme. Terme péra, le terme. La mort est un terme, mais la mort n'est pas une fin. On a cassé sa pipe, hein, oui, c'est ça. C'est une fin. Après on ne pourra plus fumer. Donc c'est une fin, c'est un terme. Et ce terme devient fin quand c'est le terme le meilleur. Ah oui. Belsion. Donc, je qualifie ce terme. La fin implique une qualification du terme. C'est le meilleur des termes. Ah voilà, c'est une fin. C'est très intéressant ça. Parce que ça fait comprendre comment, en mathématiques, il peut y avoir une certaine fin, mais qui est un terme. Et aussi bien, les arts fabriquent eux-mêmes la matière, dont ils usent les uns absolument, les autres en la rendant facile à travailler. Et nous usons de toute réalité comme existant en vue de nous-mêmes. Alors, vous voyez, c'est très curieux. Hein. C'est que le point de vue, le problème de l'art accompagne tout le temps cette réflexion d'Aristote. Ça, je crois que c'est très intéressant. Pour bien faire comprendre l'importance de la réflexion sur l'art pour connaître la matière. pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui. Et celui qui part de la physique et qui ne regarde que la physique pour connaître la philosophie de la nature est tout à fait en dehors de la perspective d'Aristote. Qui part de là. Alors là, très bien. Et ça, je crois que c'est tellement actuel. Je connais mieux ce qu'est la philosophie de la nature par là que par les mathématiques. Les mathématiques sont complètement étrangères, mais totalement étrangères. Tandis que l'art n'est pas étranger. Pourquoi ? Parce qu'il y a la connaissance du sensible. Et là, je suis séparé du sensible. Comment vous voulez vous rejoindre le sensible alors que vous l'avez abandonné, alors que vous êtes séparé de lui ? Et la petite remarque d'Aristote, vous savez, à propos, il dit ça dans la poétique. Quand il dit que l'art est plus proche de la philosophie que l'histoire. Ça, c'est la bombe atomique, hein, pour la Sorbonne. Parce qu'on s'est plongé dans l'histoire. Et on se plonge dans les mathématiques. Vous voyez, les deux grands obstacles pour nous, hein, les deux grands obstacles pour nous, pour comprendre ce que c'est que la philosophie de la nature d'Aristote, c'est la connaissance moderne, physique, mathématique et l'histoire. C'est totalement étranger à la philosophie de la nature. Qu'est-ce qui me permet au contraire de me rapprocher de la philosophie de la nature ? C'est l'art. Dans ce sens-là que l'art médical me permet d'être plus proche de la philosophie de la nature que la physique et les mathématiques. Oui, le gardien de la philosophie de la nature, ça doit être le médecin. L'art médical, pas la science, hein, mais l'art médical. Parce qu'il a un sens de la matière. Le médecin a un sens de la matière. Le vrai médecin. Et de la finalité. Alors que les mathématiques n'ont plus aucun sens de la finalité et plus aucun sens du sensible, des sensibles. Donc ils sont très loin. Donc c'est ça qu'Aristote veut dire. Là, il y a une petite, évidemment, on sent très bien, hein, il y a un os face à Platon. Pour Platon, il faut passer par les mathématiques pour atteindre la philosophie. Et aussi bien les arts, fabrique. Il faut bien comprendre ici les technaï. Poiousin tenulen. Les uns. Aplos. Donc, aussi bien les uns. Poiousin fabrique. C'est différent, c'est pas commode à traduire, hein. Le font. Et technaï, et tenulen. Alors, poiousin, qu'est-ce que ça veut dire exactement quand Aristote dit ça? Et c'est très intéressant. Est-ce que ce n'est pas le point de vue de l'efficience qu'il faut maintenir là ? Les arts font la matière. Oui, fabriquer, c'est déjà un petit peu extrinsèque. Poiousin, pour moi, c'est, vous voyez, comme vous dites, c'est l'une des phrases clés de la poétique. C'est l'imitation, mais l'imitation en même temps la transformation. C'est vrai que l'artiste fait la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'artiste est tellement proche de la matière qu'il lui donne son sens. L'artiste, c'est l'homme de la matière. Alors, poiousin. Regardez bien, essayez de traduire poiousin dans votre cogitation. Pour arriver à bien traduire poiousin, je crois que dans poiousin, il y a tout le point de vue de la cause efficiente. Et tout le point de vue de la cause efficiente, c'est justement l'éduction. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait à partir de la matière. C'est à partir de la matière. On fait à partir de la matière. C'est-à-dire que l'artiste, il coopère avec la matière. Il fait avec la matière. Tandis que fabrique la matière, ça a l'air de... J'allais presque dire que c'est juste l'inverse. Poiousin tenulen, on fait la matière. C'est de la matière que se fait l'œuvre d'art. Et l'artiste est celui qui ne quitte jamais la matière. Le véritable artiste. Il ne quitte pas la matière. Il la façonne. Il la fait. Et vous comprenez bien, ce n'est pas la matière première. Pas ça du tout. C'est la matière qui est dans l'œuvre. C'est celle-là qu'il fait. Et je crois que c'est pour nous faire comprendre la proximité de l'art et de la matière, comme de fait il y a la proximité du philosophe de la nature et de la nature matière. Le philosophe de la nature, il palpe, il touche la matière, il la connaît par une espèce de connaissance intime. Et l'artiste a lui aussi un même toucher de la matière. Alors il l'a fait. Et connaissance pratique, connaissance spéculative. Et connaissance pratique et connaissance spéculative de la matière, les deux connaissances de la matière. On fait la matière, on la connaît en la faisant. Voilà la connaissance de l'artiste. Et la connaissance du philosophe, philosophie de la nature, il connaît la matière, il ne peut pas se séparer de la matière. Si je veux connaître la nature, je ne peux pas me séparer de la matière, à la différence du mathématicien, qui a les doigts propres, les mains propres. L'artiste n'a jamais les mains propres, parce qu'il est toujours collé à la matière. C'est ça, je crois, le poiousin. C'est quelque chose de très important, ça, parce que c'est, au fond, Aristote veut montrer les deux manières dont on s'approche de la matière. Les deux manières dont on est proche. C'est difficile la connaissance de la matière, c'est pas commode, hein, et c'est très important. Parce qu'on a toujours, toujours la tendance de se séparer de la matière. C'est l'idéologie. Connaître la matière par l'idéologie, c'est la méconnaissance de la matière. Alors connaître la matière en artiste, c'est coopérer avec la matière. Je la connais parce que je coopère. Oui, c'est ça. Oui, il a fait de l'intérieur, je n'allais pas se dire. Comme une mère qui fait son gosse. Vous voyez, c'est la matière. À partir de la matière, il y a quelque chose comme ça. Je crois que le poiousin doit être mis comme ça. Donc, la manière dont il use, c'est plus absolu. C'est poiousin ten ulen. Les uns absolument, les autres en la rendant facile à travailler. Donc, polos et les autres, ergon. Vous voyez, le ergon. Ergon, c'est l'œuvre. Alors le ergon, les autres, j'allais dire, c'est en la caressant. C'est 10 choses différentes. Un artiste, un sculpteur caresse sa matière, comme on dompte un cheval. Ergon. C'est quelque chose de particulier. Et nous usons de toute réalité comme existant en vue de nous-mêmes. Eneka et mônes en vue de nous-mêmes. Car nous-mêmes sommes en quelque manière une fin. Ce en vue de quoi, en effet, se prend de deux façons, on l'a dit dans les écrits intitulés de la philosophie. Très intéressant, ça ne regarde pas tellement la philosophie de la nature, ça. La philosophie de la nature ne saisit pas parfaitement la finalité. C'est la philosophie première qui va saisir parfaitement la finalité. Et vous voyez, ça c'est très intéressant, quand Aristote s'arrête, il ne spécule pas en philosophie de la nature sur les deux manières de considérer là, la finalité. On regardera les deux manières de la finalité en éthique et en philosophie première. Alors ça c'est très curieux, hein, ce petit passage. Ainsi sont-ils deux, les arts qui commandent à la matière et en acquièrent connaissance, à savoir l'art utilisateur et l'art qui est directeur de l'art producteur. D'où vient aussi que l'art utilisateur est en quelque manière l'art directeur. Et de ce point de vue, les arts diffèrent en tant que l'un est capacité d'acquérir la connaissance de la forme eidétique, à savoir l'art directeur, tandis que l'autre, en tant que producteur, est capable d'acquérir la connaissance de la matière. Le pilote, en effet, apprend à connaître et prescrit quelle doit être la forme eidétique du gouvernail. Tandis que le fabricant du même gouvernail apprend à connaître à partir de quel bois et de quel mouvement il existera. Oui, l'art qui utilise est proche de la finalité. L'art qui fait est proche de la matière. Alors ça, c'est très très astucieux pour montrer que l'œuvre... Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez... La manière dont Aristote quitte les mathématiques et la matière dont Aristote revient à l'art. Moi, je trouve ça prodigieux. Pour connaître ce que c'est que la philosophie de la nature. Il quitte jamais l'art. Et les mathématiques, il les envoie promener. C'est quand même très curieux, ça. Alors que les mathématiques sont un honneur du temps d'Aristote. Et que les mathématiques ont été portées à un point très élevé par Platon. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que les mathématiques ne touchent pas à la finalité. Parce que les mathématiques ne touchent pas à la matière. Alors qu'est-ce qu'il va nous montrer ici ? Il va montrer que l'art donne le sens de la matière et de la fin. Donc, c'est par l'art que je redécouvre le sens de la matière et le sens de la finalité. Vous voyez, comme pour nous c'est important. On a perdu complètement le sens de la matière. On a perdu complètement le sens de la fin. À cause de l'idéalisme. À cause des idéologies. Comment redécouvrir le sens de la matière? Comment redécouvrir le sens de la fin? Aristote nous montre. Il y a deux types d'art. Il y a l'art du fabricant. Alors il prend celui qui fabrique le gouvernail. Regardez un artisan qui fait un gouvernail. Quoi? Comment il le fait? Sens de la matière. Et puis regardez celui qui use du gouvernail. Celui qui gouverne. Il a le sens de la fin. Vous voyez ? L'usage me donne le sens de la fin et la fabrication le sens de la matière. Je trouve ça très astucieux. Vous voyez comment l'art me remet en présence de la matière. Les arts, poiusin ten ulen. Hein, ça, c'est extraordinaire. C'est une phrase qu'on doit garder dans le cœur. Les arts font la matière. Ils fabriquent la matière. Ils la font. Ils lui donnent le sens. L'art donne le sens de la matière, l'art donne le sens de la fin. Et donc, lorsqu'on est en présence de notre monde d'aujourd'hui, d'idéologues, qui n'ont plus aucun sens de la fin, plus aucun sens de la matière, c'est l'art seul qui sauve tout. Et là, on voit très bien quelqu'un comme Camus. Le réalisme d'aujourd'hui, c'est par l'art que vous devez le redécouvrir. Vous ne pourrez pas le redécouvrir autrement. C'est pas par la science. Oh non. Parce que la science est annexée aux mathématiques. Si la science est annexée aux mathématiques, la science ne me mettra pas le sens de ça. Impossible. Je continue. Si, dites bien, si vous avez des questions, posez-les. L'un est capable d'acquérir la connaissance de la forme eidétique, à savoir l'art, celui qui gouverne, celui qui commande, celui qui gouverne. Tandis que l'autre, en tant que producteur, en tant qu'il fait, producteur de la matière, est capable d'acquérir la connaissance de la matière. Oui. Par le fait de faire la matière, je connais la matière. C'est une connaissance pratique. Le pilote, en effet, apprend à connaître et prescrit quelle doit être la forme eidétique, donc l'eidos, du gouvernail, tandis que le fabricant du même gouvernail, à partir duquel, de quel poids et de quel mouvement il existera. Il existera, il saura. Ainsi donc, dans les choses existantes, donc ainsi donc, selon un art, nous faisons la matière en vue de l'œuvre. Dans les réalités physiques, elles se trouvent déjà existantes. De plus, la matière est au nombre des réalités qui existent relativement à quelque chose, car à une forme eidétique, autre correspond une matière. Bon, car à une forme eidétique, autre correspond une matière autre. Alors c'est ça, vous voyez, qu'Aristote souligne en dernier lieu, c'est que la connaissance de la matière est une connaissance toujours analogique. Je ne connais pas directement la matière. Et c'est ça la difficulté, et c'est pour ça qu'au fond la matière, le sens de la matière se perd si vite. Alors, comment connaître la matière puisque je ne la connais pas directement? Je la connais en faisant que cette matière va être habitée par une forme. Alors, cette connaissance eidétique, la matière va être habitée par une forme. L'artiste va mettre une forme dans cette matière, va éduire la forme de la matière. Et c'est en éduisant la forme de la matière qu'il connaît la matière. Et je connais la matière en utilisant l'œuvre en vue d'une fin. Donc par la fin. Donc deux connaissances de la matière. Par la forme eidétique, par le point de vue de la fin. Oui. Elle est présente implicitement, pas explicitement. Vous voyez ? L'eidos. J'induis la forme dans la matière, l'artiste. Poyein. Il fait. Il induit la forme dans la matière, et en induisant la forme dans la matière, il connaît la matière. Voyez, il nous révèle la matière. C'est en ce sens-là que l'artiste est un prophète, le prophète de la matière. Il faut être prophète de quelque chose. Il est le prophète de la matière, l'artiste. Parce qu'il nous révèle la matière. Il nous montre ce qu'elle est. Alors que la matière, elle est en brut, vous ne la connaissez pas. Et l'eidos dans la matière me permet d'user de l'œuvre en vue d'une fin. Et comme il disait, la fin c'est nous. C'est vrai, de toute œuvre d'art, la fin c'est moi. C'est l'homme, c'est l'homme. C'est nous, c'est-à-dire l'homme. Aristote dit nous, le peintre dirait homme. c'est l'homme qui est la fin de tout usage. Alors cette finalité me permet de comprendre aussi la matière. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant, d'avoir la manière dont Aristote utilise l'art pour connaître la matière, tout ça en point de vue philosophique. La manière dont Aristote se sépare de la connaissance mathématique en disant que les mathématiques ne me donnent pas de connaissance de la matière. Je crois que c'est ça qui est à retenir. Et ça, alors, c'est tellement actuel. Nous avons perdu avec les idéologies d'aujourd'hui, avec l'idéalisme d'aujourd'hui, on a perdu complètement le sens de la matière. Et on a perdu complètement le sens de la fin. Et c'est l'art qui me redonne le sens de la matière et qui me redonne le sens de la fin. Alors maintenant, jusqu'à quel point le physicien doit-il connaître de science la forme eidétique et ce que c'est ? Donc on verra là la limite de la philosophie de la nature.